Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Olivier, ça va
en
bien.
En forme après, avant ce week-end là.
Ben oui, même hein, plus vieux, on va être bien quand même.
Ouais, bon, ça va aller, on est en vacances. Hein. Enfin, pas nous, mais ils sont nombreux à être en vacances, dans leur voiture et à nous écouter. Pendant cette heure justement, nous partagerons encore vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu à Europe 1 nous intéresse. La jalousie est un sentiment qui peut détruire la vie de celui qui la ressent, mais aussi de celle ou de celui qui la subit. La jalousie peut être maladive et consume souvent un petit feu celui qui en souffre. Crise de méfiance, surveillance, harcèlement qui peut tourner à l'espionnage, et c'est alors une spirale infernale qui s'amorce. La jalousie n'épargne aucune sphère, ça peut être le collègue de travail qui réussit trop, la sœur qui a toujours pris la lumière, une amie qui a trop d'amis justement, et finalement qui est trop heureuse et que au final, trop heureuse pour être honnête. C'est ce qui provoque la jalousie. Comment ce sentiment naît-il? Comment le contrôler? La jalousie peut-elle ravager un couple, une amitié, des relations familiales? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Le 39-21, le standard d'Europe 1 est ouvert. N'hésitez pas à nous joindre. 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Corinne au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Corinne.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 53 ans et je vous appelle de la région Rochelaise en Charente-Maritime.
D'accord, merveilleuse région. J'y passe souvent.
Merci.
Lorsque vous étiez enfant, Corinne, c'est là que tout a commencé. Hein, en fait, vous dites que votre mère vous rendait volontairement moche avec la complicité de votre sœur. Expliquez-moi comment tout ça a commencé.
Je ne saurais expliquer quand et comment ça a commencé, parce que je crois qu'enfant, j'en avais pas vraiment confiance, mais j'ai des souvenirs très précis de, notamment ces paires de chaussures dans des grands bacs qui coûtaient 5 francs à l'époque.
Ouais.
C'était une paire de chaussures marron, on avait toujours les mêmes tous les ans, et ma mère nous achetait des chaussures en pointure 38.
Mmh. Alors je dois rétablir je n'avais pas totalement compris. Votre sœur et vous hein, qui étiez victime de ce comportement.
Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et je me souviens qu'il fallait acheter les chaussures en pointure 38 parce que nos pieds risquaient de grandir. C'est un détail, mais j'ai 53 ans et je chausse toujours du 36. Ouais, voilà,
d'accord.
Je me souviens elle nous coiffe les cheveux, nous avons les cheveux longs et elle passe la brosse dans nos cheveux sans ménagement et ça nous fait mal. Ah, et maman, ça fait mal. Mmh. Et elle nous dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va tout couper. Et elle nous fait couper les cheveux au bol.
Mmh. Il y a d'autres anecdotes, et notamment lorsque des copains venaient vous chercher en mobylette, vous dites que c'est elle qui sortait pour les accueillir, qui leur parlait. Ça traduisait quoi selon vous?
Je n'en sais rien, j'étais trop jeune pour en avoir conscience, et beaucoup plus tard que j'ai compris. Mais en fait, il fallait rester à la maison, il fallait pas sortir. C'est elle qui accueillait nos enfants, soi-disant nos copains de l'époque. J'habitais à la campagne, et puis c'était l'époque des mobylettes, des copains, on faisait vraiment rien de mal, mais on se rencontrait, on se retrouvait. Et on n'avait pas le droit de sortir de la maison, c'est elle qui allait au-devant de nos copains pour les saluer et leur parler.
Mmh. Vous pensez que votre mère était jalouse de vous et de votre sœur?
Je ne l'ai pas pensé pendant de nombreuses années jusqu'au moment fatidique où dans ma vie d'adulte elle ira très loin.
Parce que lorsque vous étiez étudiante, hein, vous reveniez tous les week-ends pour la voir et vous dites qu'elle ne parlait que d'elle, que de son physique, comme si finalement elle se comparait tout le temps à vous, comme si elle était en compétition avec vous.
Alors oui, ça c'est une chose dont je n'avais pas conscience à l'époque. J'adorais ma mère, je l'adorais. Mais si par exemple je lui disais je rêve de partir en voyage dans tel pays, dans les mois qui suivaient, elle y allait. J'ai acheté une brosse à cheveux, elle en achetait 5 de la même sorte.
Mmh. Vous dites que pendant des années votre mère a été très exclusive. Vous ne deviez parler qu'à elle, être toujours avec elle.
Oui.
En fait, est-ce que c'est plus de l'égocentrisme qui est lié à ce sentiment de jalousie qui semblait se dégager de votre maman?
Encore une fois, c'est à l'âge de 40 ans que j'ai pris conscience de sa jalousie. Quand je le vivais, je ne comprenais pas. Je voyais bien les comportements différents des mères de mes amies.
Ouais.
Mais bon, voilà, c'était pour elle. Je pense qu'elle me disait que c'était de l'amour. Enfin, oui, elle me parlait de tendresse et d'affection.
Mmh.
Et en fait, elle était vraiment très très exclusive. Et si elle venait me rendre visite chez moi lors de ma vie maritale plutôt désastreuse, il fallait être avec elle tout le temps. Il fallait lui parler. Il fallait être avec elle tout le temps.
Et justement,
pouvoir d'amis.
Justement, Corinne, à l'âge de 40 ans, vous dites que c'est là que vous vous êtes rendu compte, en tout cas que vous avez commencé à réfléchir à tout ça. Est-ce que il vous est arrivé de l'aborder avec elle, cela?
J'ai essayé.
Oui.
J'ai essayé et j'ai eu une fin de non-recevoir. J'ai essayé de la rencontrer, j'ai essayé de lui écrire. Mes courriers, elle me les renvoyait. Et elle me renvoie le « tout est de ma faute » avec tout ce que j'ai pu lui faire et tout ce que j'ai pu lui dire. Mmh. Mais lorsque j'essaye de creuser un petit peu, d'en savoir un peu plus, eh bien c'est le vide qui me fait face.
On est dans un schéma assez classique du rapport mère-fille. Aujourd'hui, en fait, avant de vous quitter, j'ai envie de vous demander où vous en êtes quant à votre sentiment par rapport à cette jalousie. Est-ce que c'est... Vous en avez parlé avec elle aujourd'hui, un peu plus tard? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu échanger aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, elle a un certain âge?
Alors, je n'ai pu échanger avec elle à aucun moment. Cela fait 8 ans que nous n'avons aucun contact, alors que, paradoxalement, elle habite à peine 10 minutes de chez moi. Elle n'est jamais venue dans la maison que j'habite. Et elle est allée encore plus loin. J'ai dû divorcer... pour violence conjugale et ma mère a fait une attestation pour mon ex-mari, bien qu'elle ait été témoin des violences et qu'elle en a vraiment été témoin, elle en avait pleinement conscience. En fait, cette personne me remplace dans ma propre famille.
Merci Corinne pour votre appel et votre témoignage. Je vous encourage à vous protéger encore aujourd'hui face à cette maman qui semble avoir été assez intrusive avec vous et qui n'en a pas fini visiblement. Dans quelques instants, nous aurons Nathalie en ligne. Elle a été jalouse maladive au point de passer plusieurs années à harceler son ex-compagnon. Aujourd'hui, elle est jalouse repentie et souhaite nous en parler.
Europe 1. La jalousie, ce sentiment destructeur, arrivez-vous à le combattre? Êtes-vous victime de la jalousie de quelqu'un, de votre mère, de votre conjoint? Vous nous racontez votre histoire au 39-21, 50 centimes la minute. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Nous parlons de la jalousie entre frères et sœurs, une ou un collègue qui devient un concurrent, la jalousie amoureuse qui dévore comme Angèle qui chante à l'instant. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous avons eu Corinne au 39-21 qui nous décrivait le comportement jalousif de sa mère vis-à-vis d'elle et de sa sœur, qui a duré finalement, puisque aujourd'hui nous en sommes arrivés à une situation qui semble être une situation de non-retour. Nous sommes maintenant avec Nathalie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Nathalie.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 50 ans et je vous appelle de Paris, enfin la région parisienne.
Alors, je dois vous remercier tout d'abord pour le courage que vous avez de témoigner de quelque chose qui vous a habité longtemps. Parce que c'est très courageux de venir parler même de quelque chose qui est passé comme ça. Vous venez d'une fratrie de 4 frères et sœurs, Nathalie, et vous avez eu du mal à trouver votre place à l'époque. Les premiers sentiments de jalousie sont venus à ce moment-là envers vos frères et sœurs.
Oui, tout à fait. En fait, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte en fait de ce qui se passait, mais je me rendais surtout compte que l'amour de mes parents était positionné sur les deux plus grands, donc mon grand frère et ma grande sœur.
C'était une réalité, ça, ou c'était déjà vous
qui... Non, c'est une réalité. C'est une réalité puisque voilà, c'était le premier enfant, le premier garçon, puis ma sœur qui est arrivée à 7 ans plus tard, donc en fait elle a été désirée totalement. Et moi je suis arrivée en 4e position. Alors moi j'étais le bébé, le petit dernier, qu'on jetait dans les crèches, qu'on donnait à garder. C'était vraiment, j'étais un peu rejetée de cette façon-là, déjà toute petite. J'ai encore le sentiment à 5-6 ans de. Et puis après les autres sont partis, et puis effectivement ma mère s'est retrouvée avec moi, et puis elle a donné beaucoup d'amour et donné beaucoup de possession parce qu'elle avait donc perdu les deux amours de sa vie, entre guillemets, ses deux grands enfants.
Mais le mal était fait, parce que comme on le sait, enfant, on se construit, c'est là que les fondations passions de notre vie prennent naissance, en fait. Hein, et donc, cette jalousie, elle s'est ensuite portée sur les hommes. Jeune, vous étiez déjà jalouse hein, dans vos relations amoureuses?
Tout à fait, j'étais jalouse très jeune. En fait, moi, j'ai quitté donc le foyer familial assez jeune, à 20 ans. Je suis partie vivre un rêve qui était celui de faire beaucoup de sport et de voyager. Oui. Mais j'avais surtout envie de quitter, ce cadre familial dans lequel je n'avais pas bien vécu mon adolescence. Donc, je suis partie pendant 10 ans. Et effectivement, la jalousie a commencé à ce moment-là, puisque les relations que je pouvais rencontrer, donc à partir de 20 ans, je prenais possession des hommes. Enfin, c'est une possession. Sans cette possession, j'avais l'impression de trouver ou de recréer une famille dans les endroits où, dans lesquels je me trouvais. Et dès qu'on s'approchait de cet homme, un peu comme le père que je n'ai pas eu, puisque ma mère a gardé, j'en parle un peu parce que ça devient aussi de là. Ma mère a joué les deux rôles, comme mon père travaillait énormément et a donné tout son amour, bien sûr, à ses deux frères et sœurs. Moi, je gardais cet homme et j'en prenais possession. Quoi. Mmh. C'est vraiment de la possession et je voulais absolument je voulais à aucun moment qu'on s'en approche. Mmh. Je recréais ma famille.
Corinne, en fait, moi, j'ai envie de savoir. Nathalie. En fait, pardon, excusez-moi, Nathalie. Oui, je suis désolé. Nathalie, en fait, il y a quelque chose qui me taraude. C'est ce sentiment de jalousie. C'est quoi? C'est de la peur. C'est l'envie.
C'est la peur de perdre l'autre.
C'est l'envie.
C'est la peur de perdre l'autre.
D'accord.
Voilà, c'est l'envie d'être aimée, c'est l'envie d'être la préférée, c'est l'envie de ce que je n'ai pas eu dans le regard de mes parents.
D'accord. Et finalement, avec votre premier vrai compagnon, ça s'est très mal passé, hein, parce que vous parliez des premiers amours, hein, où là c'était difficile, mais votre premier compagnon, vous avez fini par le quitter.
Ben, en fait, je l'ai quitté, oui. Enfin, rapidement, sans être rapide. Disons que j'ai rencontré cet homme, c'était le premier homme de ma vie, bien sûr, hein, puisque c'était celui à qui je donnais toute ma confiance, avec qui j'allais construire. Voilà, donc c'est très important pour moi. J'ai donc fait même un enfant avec cet homme, donc pour moi c'était quelque chose de concret. Je créais ma famille. Et puis cet homme, quand tout s'était posé dans ma vie, a commencé à rentrer tard, à sortir un peu, moi j'étais coincée avec mon enfant à la maison, et voilà, lui commençait à aller donc à gauche, à droite, et jusqu'au jour où cet homme qui ne prenait pas du tout ou quasiment jamais son téléphone avec lui, du jour au lendemain, s'est mis à le garder près de lui 24h/24. Là, les doutes ont commencé à arriver.
Nathalie,
au moment où...
Nathalie, restez en ligne avec nous, on va reparler de tout cela dans quelques instants, et justement, voilà, un homme qui garde son téléphone tout près de lui, il y a sûrement des raison pour ça, et j'aimerais qu'on pousse un petit peu plus loin et qu'on puisse parler de cela. Vous restez avec nous. Hein.
Europe 1. Comme Nathalie, qu'on va entendre à nouveau la jalousie, la rivalité a régi vos relations avec vos frères, vos sœurs. Vous êtes dévorés par la jalousie dans votre couple. Quelle est votre histoire? Le 39-21, 50 centimes la minute. Quand la jalousie ravage un couple, une amitié, une relation au travail, entre collègues, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes toujours avec Nathalie qui nous expliquait, qui nous décrivait sa jalousie par rapport à ce compagnon qui est devenu le père de son premier enfant. Nathalie, vous étiez en train de dire que cet homme, au bout d'un moment, prenait son téléphone 24h sur 24 avec lui. Qu'est-ce qui motivait ce comportement?
Je ne savais pas, au début, je ne savais pas du tout pourquoi. Du jour au lendemain, alors qu'il oubliait son téléphone souvent avant, donc il n'en prenait même pas, enfin il regardait ses messages, il ne regardait pas, et du jour au lendemain, il le conservait 24/24, la nuit il éteignait, enfin bref. Et puis jusqu'au jour où j'ai commencé à pister, je suis rentrée dans une jalousie, pourquoi garder son téléphone? Il y a quelque chose quelque chose me tracasse, et puis quand j'ai cherché, puis j'ai trouvé, un jour j'ai pris son téléphone, en pleine nuit, j'ai fouillé, j'ai trouvé un nom qui me paraissait totalement absurde, et qui représentait la personne qui était en train de fréquenter à ce moment-là. Et puis pendant 4 mois, ça a été terrifiant parce que je l'ai poursuivi, je ne l'ai pas lâché. Où il allait, il fallait que je sois, il fallait que je comprenne. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Et ce fameux nom un peu curieux sur son téléphone, un jour j'ai envoyé un message. Et puis ce message a été clair, net et précis. C'était bien une femme derrière puisqu'elle lui répondait que de toute façon, on allait s'en débarrasser, en l'occurrence moi.
Est-ce que vous pensez que cette liaison a finalement trouvé sa fin bien avant justement cet épisode, lorsque vous envoyez ce texto à cette femme? Est-ce que vous estimez, avec du recul maintenant, que votre comportement jaloux a mis fin à cette relation?
Disons que lorsque j'ai pris conscience qu'il y avait quelqu'un d'autre, si je n'avais pas insisté, si je n'avais pas eu ce comportement vraiment de l'agressivité, parce que j'étais convaincue qu'il y avait quelqu'un. Peut-être qu'il aurait, voilà, peut-être que ça serait passé, peut-être qu'il aurait vécu cette relation quelque temps et que ça se serait arrêté. Mais non, le fait d'avoir été agressive, d'avoir été sur lui sans cesse, de lui imposer des choses, de lui prendre son téléphone, de chercher à l'intérieur, le fait, je pense que ça a déclenché effectivement.
Est-ce que vous aviez déjà fouillé dans son téléphone avant? Est-ce que c'était...
Jamais.
D'accord.
Jamais.
Ok. Non, ça c'est important. C'est important. C'est donc vous avez été vous l'avez suspecté et finalement vous avez eu raison, même si la méthode, on peut en parler longuement. Vous avez harcelé cet homme pendant 3 ans après.
Complètement, je l'ai harcelé pendant avant que je le quitte, quand j'ai su réellement qu'il y avait quelqu'un qui existait. Je l'ai donc quitté et après pendant 3 ans, j'appelais matin, midi, soir.
Qu'est-ce que vous n'acceptiez pas là pour
je
que ça dure 3 ans?
Je n'acceptais pas qu'il ait choisi quelqu'un d'autre que moi. Je n'acceptais pas que je lui avais donné ma vie, que je voulais construire avec lui, qu'on avait un enfant. Je n'acceptais pas qu'une fois de plus, il ait choisi quelqu'un d'autre, quoi. Un peu comme, voilà. C'est une reproduction de mon enfance et encore. Voilà. Donc, je n'ai pas accepté que. Vous savez, quand l'homme à qui vous donnez tout votre amour vous quitte pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence que vous connaissez, puisque c'est une femme qui était donc pas loin de nos connaissances, en l'occurrence de ses parents, moi, que je connaissais, c'est difficile d'accepter, c'est tout, tout prend des proportions terrifiantes, quoi. Ça broie le cœur.
Je comprends parfaitement. Nathalie, en fait, comment avez-vous fait pour vous défaire de cette jalousie? Et est-ce que vous pensez mieux la gérer aujourd'hui, forte de cette expérience-là?
Bah écoutez, c'est pas cette expérience qui m'a permis de me guérir réellement, puisque après, enfin, ce qui m'a permis de me guérir, c'est durant les deux relations que j'ai eues juste après, donc le père de mon fils. Je n'étais pas jalouse pendant la relation, à aucun moment je n'ai fouillé dans le téléphone de mon compagnon.
Ouais.
Par contre, je suis devenue jalouse quand je m'en séparais. Mmh. Curieusement, ça s'est inversé. Alors, je les ai quittés ou ils m'ont quitté, mais si ce n'est que la jalousie est intervenue après, parce que ces hommes ont rencontré des femmes et je devenais jalouse de ces femmes. Parce qu'une fois de plus, je les quittais peut-être ou ils me quittaient, mais ils repartaient avec d'autres femmes et donc, une fois de plus, ils choisissaient d'autres femmes. Mmh. Donc, la jalousie se mettait en route quand j'apprenais qu'ils avaient d'autres relations ou qu'ils étaient en train d'entretenir une autre relation. Et la jalousie devenait, enfin, c'était terrible parce que c'était pareil. C'est tout pour récupérer un numéro de téléphone, une adresse, un nom, et puis j'harcelais. Si c'était pas lui, c'était elle. Et puis c'est les deux relations qui ont suivi le père de mon fils ont été terrifiantes, mais après la relation. Mais une jalousie à ne plus manger, à ne plus vivre, à ne penser qu'à eux jour et nuit, à les imaginer dans mon lieu d'habitation. Ça a duré à chaque fois, 2-3 ans.
Enfin, bon, mais aujourd'hui, vous allez mieux, Nathalie, et c'est ce qui compte. Merci mille fois pour votre témoignage. Encore une fois, je souligne que c'est très courageux de parler de ce sentiment qui est compliqué à porter, qui est la jalousie. Merci pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Sarah Frachon, psychothérapeute et auteur du livre EFT, un seul point pour tout soigner. EFT voulant dire Emotional Freedom Technique, donc liberté dans l'émotion, dans gérer son émotion, en tout cas les techniques de l'émotion.
Et Géraldine témoigne 39-21, elle a 36 ans, elle dit « Je suis cadre dans une entreprise et je suis jalouse de ma collègue et amie, bien malgré moi, elle a tout, passe son temps à inventer sa vie parfaite, je ne comprends pas pourquoi son ascension dans l'entreprise est plus fulgurante que la mienne. »
Europe 1.
La jalousie dans un couple, une amitié au cœur d'une fratrie, entre collègues, comment la gérer, comment la faire disparaître, on vous écoute au 39-21, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1. L'hymne de Nino Ferrer, le Sud sur Europe 1. Comment faire pour gérer une jalousie qui devient maladive, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale? Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Sarah Frachon. Elle est psychothérapeute et auteure du livre EFT, un seul point pour tout soigner. Bonjour Sarah Frachon.
Bonjour.
Ma première question concerne le sentiment, ce sentiment de jalousie. Est-ce qu'il se construit dès notre enfance? Comment en est-il, ce sentiment?
Alors, on peut considérer que la jalousie, c'est vraiment une maladie. qui touche d'une part plus de femmes que d'hommes, on va retrouver plus de femmes dans cette pathologie. Mmh. Et il y a un point commun, ce sont les familles dysfonctionnantes. C'est-à-dire qu'à un moment de sa construction, la personne s'est sentie rejetée ou a été amenée à prendre trop en charge un parent défaillant, mmh, sans en avoir les moyens. Et à ce moment-là, voilà, il va y avoir un grand vide intérieur, une grande insécurité. Une insécurité qui va se mettre en place.
Une insécurité qui produit tout de suite, très jeune, un manque de confiance en soi et un manque,
exactement,
d'estime en soi.
Ouais. C'est plus que ça, en fait. La jalousie est comparable à la toxicomanie. Alors évidemment, ce n'est pas lié à un produit comme la drogue ou à l'alcool, mais la jalousie donne un sentiment d'adrénaline. Mmh. Et c'est un effet stimulant.
Et à quel stade peut-on considérer la jalousie comme une maladie ?
En fait, c'est à partir du moment où l'idée est obsessionnelle. Mmh. Et derrière cette idée obsessionnelle, il y a une peur du vide qui est énorme. Mmh. Et il y a une dépendance également à la souffrance qui remplit le vide. C'est-à-dire qu'en fait, cette souffrance de contrôler tout le temps l'autre, de chercher des signes, de pister, on le voyait bien avec Nathalie, a rempli sa vie pendant ces périodes de jalousie. Mmh. C'est devenu un moteur de vie.
Est-ce qu'il peut y avoir une jalousie saine, une jalousie qui donnerait envie de se dépasser, par exemple ?
Pas sous cette forme obsessionnelle, en tous les cas, ça c'est certain. Mm-hmm. Là, on est vraiment sur des formes quand même qui sont obsessionnelles. Mm-hmm. Et on a entendu la victime avec Corinne et sa sœur, on a entendu Nathalie qui, elle, était la personne jalouse. On est dans des comportements qui sont extrêmes.
Mm-hmm. Justement, vous évoquez le témoignage de Corinne. On a vu que sa mère a toujours été jalouse d'elle. Comment expliquer qu'une mère puisse développer une jalousie vis-à-vis de ses enfants ?
Bah, probablement de la même façon, c'est-à-dire en retrouvant dans son histoire familiale une très grande insécurité et puis le besoin de contrôler l'autre pour être sûr qu'il ne va pas, Nathalie a bien expliqué, là, pour être sûr qu'il ne va pas la quitter, mm-hmm, pour être sûr que les enfants n'allaient pas la quitter. Mm-hmm. Alors, donc il y a cette peur du vide, tout le, mm-hmm, temps, la peur du vide c'est la base.
Hein. La peur du vide, la peur de l'abandon en fait.
C'est ça, mais au-delà de ça, c'est vraiment le vide, ce vide qu'on peut tous ressentir à différentes périodes de notre vie, même, ouais, de notre journée, mmh, c'est la personne jalouse, en fait, c'est un moyen qu'elle a trouvé pour créer une excitation qui va masquer ce sentiment de vide. Mmh. C'est très, très profond.
Mmh. Et justement, alors, comment faire lorsqu'on vit avec une personne jalouse ? Alors, bien évidemment, une personne jalouse dans le couple ne développe peut-être pas la même énergie que dans le travail ou en société. Mais que faire lorsqu'on on affronte une personne jalouse ? Et j'emploie le terme affronter finalement, qui est sûrement pas le bon. Mais c'est l'impression que ça peut me donner. Affronter.
Vous avez raison. Mmh. En fait, je vais vous dire quelque chose qui peut vous sembler étonnant, c'est qu'on se retrouve dans le même schéma que lorsque on est avec un alcoolique ou un drogué.
Oui.
Et donc, il faut déjà commencer par accepter la situation. Souvent, les gens qui sont victimes de jaloux n'osent pas en parler, ils ont honte. Parce, mmh, qu'ils sont contrôlés de façon aberrante, ils sont contrôlés dans leur agenda, dans leur quotidien, dans leur nuit, à n'importe quel moment. Donc c'est déjà, pour la personne qui est victime, c'est accepter ce qui se passe. Et pour, mmh, la personne qui est victime de sa jalousie, c'est aussi accepter ce qui se passe. Et, mmh, aussi admettre son impuissance. Parce que il va forcément y avoir le besoin... Il faut pas chercher à s'en sortir seul. Il faut vraiment chercher de l'aide et pour ça rencontrer une personne avec qui on a envie de travailler, c'est-à-dire avec qui on a suffisamment de confiance.
Mmh. Du type en fait, un psychothérapeute.
Ouais, plutôt un psy, oui, tout, ouais, à fait, mmh, tout à fait. Mais ça peut être aussi une association. Ça marche aussi, mais surtout pas rester dans l'isolement. Accepter qu'on est face à une situation qui est grave et qui peut même être très grave. On a vu pour Nathalie, c'était ce que vivaient ses partenaires était vraiment excessif. Ils n'avaient d'ailleurs pas d'autre solution que de partir.
Mmh. Sarah Frachon, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et auteur du livre EFT, un seul point pour tout soigner. Nous allons accueillir dans quelques instants Catherine. Elle est devenue polyamoureuse avec son mari. Comment gérer la jalousie dans ces conditions ? Voilà, on va en parler dans quelques instants.
Europe 1. Jalousie amoureuse, mais jalousie aussi au travail qui entraîne des tensions entre collègues. Vous nous racontez votre histoire. On vous écoute sur Europe 1 au 39. 3921. La jalousie maladive qui transforme une amitié en amour, une fratrie, en une relation toxique.
Il y en a des chansons sur la jalousie.
Et elles sont belles en plus.
Et elles sont belles parce que c'est un sentiment qui occupe beaucoup, beaucoup de nos histoires d'amour.
Bien sûr, de l'histoire de notre vie.
Exactement.
3921 pour venir nous raconter la bonne histoire. Olivier Delacroix.
Alors, nous allons accueillir maintenant Catherine. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Catherine.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 49 ans et je vous appelle de Belgique.
De Belgique, encore la Belgique. Bonjour à la Belgique. Bonjour à la Belgique. Lorsque vous avez rencontré votre mari, Catherine, il était marié. Il avait même déjà une maîtresse. C'était un homme déjà très, très occupé. Il a quitté sa femme pour vous. Est-ce que vous avez eu peur de toutes ces infidélités ? Parce que voilà, beaucoup de femmes oublient à un moment lorsqu'elles rencontrent un homme dans des conditions comme celle-là. Elles oublient vite ces conditions-là et quand c'est à leur tour, ça peut poser quelques problèmes.
Alors, disons que j'ai anticipé cette peur. Je pense que c'est comme ça que je peux dire ça parce que j'ai senti que c'était un homme qui n'était pas à enfermer.
Oui.
Je pense que ça devait répondre aussi à un besoin de liberté chez moi, mais sur lequel je n'avais peut-être pas encore mis le doigt de manière très claire, mais en tout cas, je pense que ça devait faire écho. Et donc, je lui ai proposé de garder la relation qu'il avait avec sa maîtresse, parce qu'il avait une maîtresse depuis déjà, effectivement, quelques années.
Mmh. On a traité, il y a quelques semaines, du polyamour. Est-ce qu'on peut parler de ce concept-là ? Vous êtes rentré dans ce concept-là ?
Actuellement, oui. À l'époque, c'était pas encore ça, parce que je connaissais même pas l'existence de ce mode de vie et de ce terme.
Oui.
Mais ça a été, enfin là, j'ai découvert le polyamour via un livre, je l'ai fait lire à mon mari, et là, on s'est dit, ah ben oui. Disons qu'avant, on disait juste, voilà, notre couple est ouvert et on peut avoir un amant, une maîtresse. Le polyamour va quand même plus loin parce que on cherche plus qu'un amant ou une maîtresse, c'est plutôt des relations amoureuses.
Et donc votre mari est donc amoureux d'autres femmes et en côtoie d'autres. Avant de vous demander si vous vous sentez jalouse, est-ce que vous vous êtes posé la question pour vous finalement, quand on a un homme qu'on aime en face et qui peut développer ce type de sentiment, est-ce qu'on n'est pas tenté d'y aller aussi?
Ah ben très clairement, c'est hors de question que ça dans un seul sens.
D'accord.
Et le polyamour n'est pas de la polygamie, donc.
Oui, mais alors, est-ce que justement ça entraîne le fait que vous ne soyez pas jalouse, le fait que vous aussi vous puissiez développer cela de votre côté ?
Ça n'empêche pas la jalousie, mais c'est clair que de pouvoir vivre les choses et de se dire tiens, mais moi en fait je peux aimer deux hommes ou trois, ou ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un d'autre que d'office je n'aime plus mon conjoint ou que je mets notre couple en danger ou... donc forcément de le vivre soi-même ça aide à pouvoir accepter que l'autre le vive, on comprend les choses différemment.
Donc
ça n'empêche pas d'être jaloux.
D'accord, ça n'empêche pas d'être jaloux. Et cela veut dire que, mais est-ce que cela veut dire que vous êtes dans la peur qu'il s'en aille aujourd'hui ou vous n'avez pas peur?
Non, cette peur-là, je n'ai pas. Lui non plus, on a pu la voir à certains moments. Je pense que parfois, quand il y a une nouvelle relation qui arrive, on a potentiellement des inquiétudes parce qu'on se dit, est-ce que là, ça va être quelqu'un qui va tellement le chambouler, qui va peut-être décider quand même de me quitter. On ne sait pas. Donc là, il y a une jalousie qui peut être éveillée à certains moments.
Vous avez peur de quoi, alors ?
Mais moi, actuellement, de rien. Par exemple, la jalousie, c'est pas forcément que la peur, c'est pas forcément que la peur de perdre. Ça peut être juste aussi, tiens, mais voilà, nous, ça nous est arrivé. Je raconte en quelques instants, mais ce n'était pas quelqu'un, donc mon mari n'était pas quelqu'un qui organisait facilement des choses pour moi ou pour nous, pour notre couple. C'était plutôt moi qui prenais, tiens, on va faire un voyage, on va faire ci, on va faire là. Et puis est arrivée une femme dans sa vie et je l'ai vue organiser un pique-nique, un machin. Et là, j'étais terriblement jalouse. Donc il n'y avait pas de peur, mais c'était, mais enfin quoi, tu t'es jamais donné la peine de faire ça pour moi et tu le fais pour elle. Donc voilà, ça c'est une jalousie possible. Ceci dit, alors que ce soit celle-là ou la peur de perdre, je pense que ce qui est très important, c'est d'en faire quelque chose.
Est-ce que lui, il est jaloux envers vous ?
Ça lui est arrivé aussi, bien sûr, oui, tout à fait. Entre autres, on a eu une période où il n'y avait pas de vie sexuelle entre nous. Moi, j'avais d'autres hommes à ce moment-là dans ma vie, pas lui. Là, c'était très difficile pour lui. Alors que c'est forcément plus facile quand lui a quelqu'un. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais clairement, ça facilite les choses.
Restez en ligne avec nous, Catherine. Nous allons pouvoir parler de tout cela avec Sarah Frachon, que nous avons toujours en ligne. Elle est psychothérapeute et auteure du livre EFT, un seul point pour tout soigner. Vous allez pouvoir échanger sur tout cela dans quelques instants.
Europe 1. Nous parlons de la jalousie. Sous toutes ses formes, quand on envie la vie heureuse d'une amie, la promotion d'un collègue, on vous écoute au 3921. Son nouvel album, Effet Miroir, sortira le 16 novembre. Zaz, chanté Kevendra. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et vous êtes jaloux. Comment ne pas se laisser submerger par cette émotion toxique?
Et nous sommes toujours en ligne avec Sarah Frachon, psychothérapeute et auteure du livre EFT, un seul point pour tout soigner. Et sur une autre ligne, nous avons toujours Catherine qui est également avec nous et qui est polyamoureuse. Justement, Catherine, revenons à ce concept de polyamour. Est-ce qu'il oblige à travailler sur sa jalousie? Ça traduit quoi, selon vous, cette jalousie?
Je pense que oui, effectivement, il oblige. Alors, il y a quelques... Enfin, j'avais juste envie de dire que, justement, je réagissais un petit peu par rapport à ce que disait le thérapeute EFT. Excusez-moi pour son nom, je n'ai pas retenu.
Sarah Frachon.
Sarah Frachon, voilà. Qui parlait de maladie. Alors oui, je pense qu'effectivement, quand la jalousie est omniprésente, ça peut être une maladie, mais j'ai quand même envie de dire que la jalousie est juste une émotion et que, ben, au même titre que des tas d'autres émotions ou un sentiment, on est quasiment tous concernés à certains moments par la jalousie.
Je pense que Sarah Frachon faisait plutôt allusion à une jalousie bien présente, quelque chose qui était, elle parlait d'addiction, hein, même
oui,
comparait
ça
à la drogue. Donc
vraiment,
je pense qu'elle parlait de cas vraiment affirmés de jalousie, maladif, exactement.
Oui, tout à fait. Donc parmi les polyamoureux, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont à différents stades par rapport à la jalousie, quelques rares personnes qui ne la connaissent, pour ainsi dire, jamais, ça ne fait pas partie de leur construction, d'autres qui sont très jaloux, alors certains sont en souffrance très grande et presque permanente, parce qu'ils sont ouverts à ce principe, ils se disent waouh, c'est chouette la liberté, et puis en fait ils se rendent compte que ça les insécurise trop et que c'est très difficile.
Justement, je vais aller dans le prolongement de ce que vous dites, parce qu'on a compris que le polyamour est un remède à cela, et je me tourne vers vous, Sarah Frachon. Finalement, apprendre à ne plus être jaloux, est-ce que finalement ça ne serait pas accepter que l'autre puisse vivre heureux mais sans nous?
En fait, je voulais d'abord revenir sur quelque chose qui est le fait de partager son expérience avec les autres, ce qui est le cas de Catherine, ce qui était aussi le cas de Nathalie, ce qui était le cas de Corinne. Ça permet de prendre conscience du principe de guérison ou d'adaptation, je dirais. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir faire ce partage. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ça fait partie, dans les groupes de parole, d'une façon, effectivement, d'aller bien. Parce que on a forcément besoin de croire que ce qui nous est arrivé n'est pas si terrible que ça. On a besoin de banaliser ce qui est arrivé pour pouvoir s'en sortir. Juste un instant, Catherine, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a bien des stades dans la jalousie et que la jalousie dont je parle est bien obsessionnelle et pathologique et dépasse tout à fait la jalousie classique. Alors après, pour répondre strictement à cette question, il y a un équilibre, une sorte de va-et-vient, un équilibre à trouver entre je suis trop égoïste et trop centrée sur moi ou alors je suis trop concernée par l'autre. Et c'est cet équilibre-là qui va permettre finalement que l'on sorte de la jalousie en tant que maladie et qu'on trouve un équilibre.
Catherine, vous arrivez à vous dire cela comment ne pas s'oublier dans une relation amoureuse, oublier ses sentiments et ses sensations surtout.
Mais c'est vrai que voilà, c'est effectivement un travail de tous les instants de trouver cet équilibre entre moi, mes besoins, ce que je voilà, et l'autre. Et autour de la jalousie, c'est très important aussi, par exemple, de se dire ben voilà. Mon compagnon se sent mal actuellement et il est jaloux pour telle ou telle raison. Est-ce que moi, je vais adapter mon comportement? Est-ce que je vais renoncer à faire certaines choses? Est-ce que je vais renoncer à une autre relation? Ou est-ce que je vais plutôt, parce que là, je pense qu'à l'heure, on se renie soi-même, ou est-ce que plutôt, je vais essayer de l'accompagner pour voir avec lui ce qui se passe? Et souvent, il y a une insécurité, souvent, il y a une peur, ou un besoin qui n'est pas satisfait, quand je parlais tout à l'heure du pique-nique. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir répondre à ce besoin, pour rassurer l'autre ou pour combler ce besoin qui n'est pas comblé, si on peut le faire? Donc c'est vraiment avec un dialogue qu'on peut y arriver. Mm-hmm. Et je ne pense pas que le polyamour soit une solution à la jalousie, mais c'est un moyen.
C'est un moyen de la contourner, en tout cas, ou de l'apaiser.
Je ne crois pas. En soi, je ne pense pas. Ça ne l'est que si on se donne la peine de faire ce travail ensemble et le travail sur soi-même. Sinon, je pense qu'on va de souci en souci. Et il y a beaucoup de souffrance dans des histoires polyamoureuses aussi. Il y a des histoires très belles, mais il y a beaucoup de souffrance parce que justement...
Mais il y a beaucoup de souffrance à cause de la jalousie, non ? Je pense que ce concept-là, il est difficile à mettre en place.
Oui, c'est certain. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, le polyamour n'est pas une solution à la jalousie, mais une très belle occasion de la travailler en profondeur.
Voilà, pardonnez-moi, c'est vrai que c'est une très belle occasion de, en tout cas, de l'apprivoiser, en fait, de faire qu'elle ne soit plus présente dans nos vies et dans nos histoires d'amour qui doivent généralement finir bien. Hein. C'est fait pour ça, on aime pour être heureux. Merci Catherine, merci de votre appel de Belgique. Merci aussi à Corinne, à Nathalie, à Sarah Frachon. Je rappelle que vous êtes auteur du livre EFT, un seul point pour tout soigner, que vous êtes psychothérapeute. Merci à tous et à toutes de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris que la jalousie est la conséquence d'un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Apprendre à se connaître soi-même, se retrouver et s'apprécier est la première voie de la guérison. Car si la jalousie est destructrice pour soi, elle l'est aussi profondément pour les autres. Gérer sa jalousie, c'est aussi le faire pour les autres qui sont souvent démunis devant ce mal-être. Face à la jalousie, certains décident de l'accepter, de la contrôler. D'autres décident d'en parler, de l'extérioriser. N'hésitez pas à consulter si vous sentez que cela devient invivable, trop envahissant. Vous pouvez continuer à en discuter sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur notre groupe Facebook qui ne cesse toujours de compter de nouveaux arrivants.
Exactement.
Merci à vous.
N'hésitez pas à nous rejoindre et d'échanger ce week-end. Vous êtes 2448 membres. Mmh. On est très heureux de vous avoir.
On est
avec
très
vous.
Heureux. Lundi, nous parlerons des agressions homophobes. Elles se sont multipliées ces dernières semaines. Si vous avez été victime d'agressions homophobes, si vous avez été témoin, un de vos proches en a été victime, appelez-nous au 3921 pour nous parler de cette histoire. C'est vrai que ces agressions homophobes se multiplient ces dernières semaines avec des jeunes générations qui semblent pourtant évoluer et ça pose en tout cas question. On en parlera dès lundi avec vous au 3921.
Merci Olivier.
J'ai été ravi de passer cette semaine à vos côtés, ma chère Ombline. J'ai passé une excellente semaine en compagnie de tous ceux qui étaient présents chaque jour. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier à l'éditorial, à Jean-François Bussière à la réalisation et aussi à Nicolas Six qui est avec nous aujourd'hui. Et à vous aussi ma chère Ombline.
Merci.
Et je vous dis à lundi.
À lundi.
Je vous laisse maintenant, chers amis, avec l'excellente Laurence Boccolini. Bonjour Laurence.
Bonjour Olivier. Ouais, aujourd'hui on reçoit Philippe Manœuvre qui vient nous parler de son livre Rock.
Alors cette semaine, chère Laurence, aujourd'hui on va faire du rock en même temps qu'on va rigoler. Bonne émission les filles et à lundi.